Et dans le grand entretien du 7-9 ce matin, débat sur les fake news, les fausses nouvelles, les informations manipulées, la propagande. Il y a un certain nombre d'expressions qui sont en circulation. On en parle avec Dominique Cardon, qui est sociologue, avec Samuel Laurent, qui est journaliste au Monde, responsable de la rubrique Décodeur. Intervenez dans ce débat au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le débat est nourri, il est intéressant aussi, je trouve, sur cette proposition de loi contre la manipulation de l'information en période électorale. Une fausse nouvelle est définie ainsi, Thomas Legrand le disait, je cite à nouveau, « toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable. Ces fausses nouvelles devront avoir été mises en circulation de mauvaise foi et être diffusées de manière artificielle ou automatisée et massive sur Internet. » Là, ça me semble assez clair. Ce sera au juge saisi en référé de trancher et d'interdire. De la France insoumise au Front National, toute l'opposition est contre. Cette loi est liberticide. D'autres voix disent qu'elle sera d'abord et surtout inutile. Alors vous, où vous situez-vous? Liberticide, inutile ou utile? Il faut bien mettre ce mot aussi dans le débat. Dominique Cardon, pour commencer.
Ben, bon, la loi cherche à adresser une vraie question. Donc en ça, elle pose un vrai débat. En revanche, il me semble qu'elle est parfaitement inutile pour beaucoup d'aspects et qu'elle risque surtout d'être contre-productive. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que finalement, c'est une loi peu applicable quand on regarde les discussions sur la définition qui a changé. La définition de la fake news vient de changer. C'est difficile à définir, ça ne fonctionnera pas, c'est dans certaines conditions très très particulières, sur notamment l'automatisation de la mise en évidence des fausses nouvelles, etc. Donc on sent que c'est une loi qui cherche à communiquer en fait, qui cherche à montrer une sorte de préoccupation, mais qui n'est pas destinée à être appliquée, mais qui en revanche, et c'est là qu'elle est véritablement dangereuse à mon sens, hein, elle offre à tous ceux qui se sentent exclus d'un espace public qui serait fermé, professionnalisé, avec de la connivence, etc. Elle leur offre un fait vérifiable et vraisemblable pour justifier leur propre sentiment de persécution qui peut et qui nourrit, qui est la machine qui fabrique ces productions.
Donc elle n'est pas liberticide, c'est du carburant pour le complotisme. C'est ça ce que vous dites?
Il y a un risque évident qu'elle soit utilisée par tous ceux qui se sentent exclus de l'espace public central, on va dire, comme étant l'argument d'une évidence, d'une éventuelle fermeture et d'une censure dont il serait l'objet.
Et pour vous, Samuel Laurent, dans Le Monde daté d'aujourd'hui, publié hier, éditorial à la une du directeur Jérôme Fenoglio, qui fixe la ligne du parti et du journal, le journal est contre. Vous?
Moi aussi, sans problème.
Et pour quelle raison?
Parce que je pense qu'elle est effectivement à la fois inutile et dangereuse. Je pense qu'elle porte vraiment les deux en elle-même. Elle est inutile parce qu'effectivement, il y a tellement de critères d'application pour l'instant qu'on voit très très mal. On a beau essayer de prendre toute la présidentielle, toutes les affaires de la présidentielle, il n'y a rien qui ne pourrait remplir toutes les cases qui justifieraient en fait le fonctionnement de cette loi. Mais elle est à la fois dangereuse. Alors effectivement, parce que je pense que c'est un peu une loi faite par des gens un peu désemparés face à un phénomène qui les dépasse, parce qu'ils nous dépassent tous sans doute. Mais c'est aussi dangereux parce que ça porte les germes de voilà, il suffirait de bouger quelques termes à la loi, quelques paramètres et on aurait quelque chose. C'était Mélenchon d'ailleurs qui le disait hier à l'Assemblée de manière assez amusante en disant
imaginez-moi si au pouvoir
que je pourrais faire avec. Ce qui était une manière assez rigolote de le prendre, mais c'est vrai que c'est voilà, ça pose une question. Pour moi, c'est vraiment une loi qui traduit un certain désarroi, je dirais, des politiques, qui est peut-être aussi celui des journalistes dans une certaine mesure face à
et peut-être des démocraties.
Oui, voilà, face à une révolution informationnelle qui nous dépasse tous et qui face à laquelle finalement on est démunis quoi.
De quoi cette loi, Dominique Cardon, aujourd'hui en France en 2018 est-elle le symptôme?
Mais de beaucoup de chose. Et d'abord d'une préoccupation qui serait de s'interroger sur pourquoi avons-nous autant peur des fake news, hein. Parce que on a bien vu, et là il n'y a pas de discussion sur cette affaire, il y a massivement des tentatives de désinformation, des nouvelles malheureuses, fausses, scandaleuses, et bon, il y a une circulation massive d'informations qui sont fausses. Un peu dans les caves de l'internet quand on regarde de près, c'est-à-dire pas dans les zones de haute visibilité, notamment en France, hein, sauf Facebook mis à part. Mais en revanche, nous sommes tous persuadés, et je pense que c'est le cœur de l'interprétation de cette loi, que ce sont les fake news qui ont élu Donald Trump ou qui ont fait le Brexit. C'est-à-dire qu'on a une croyance collective qui s'est mise en place sur l'effet de la fake news. Alors moi, je ne conteste pas la réalité de ces fausses informations, mais en revanche, nous n'avons pas, dans les recherches, d'études convaincantes pour prouver qu'une fausse nouvelle a fait changer l'attitude ou le vote des individus. Et les travaux qui sont faits aux États-Unis sur la question montrent plutôt le contraire. Donc, nous sommes tous en train, avec une sorte de médiacentrisme, d'interpréter des phénomènes sociologiques, politiques, culturels, absolument massifs, qui sont liés à l'arrivée des populismes dans nos pays, aux difficultés sociales, aux transformations, aux inégalités dans nos sociétés. Nous sommes tous en train d'effacer ces facteurs sociaux qui avaient été d'ailleurs... Moi, j'ai bien souvenir de, après le Brexit, élection de Donald Trump, les journalistes ont couru dans l'Amérique profonde, dans les campagnes désindustrialisées anglaises, pour essayer de comprendre les phénomènes sociaux qui étaient au principe du vote des électeurs. On a un peu oublié tout ça, et on est tous en train de dire le problème du populisme contemporain, c'est les fake news, et on va essayer de nettoyer le numérique en créant une loi. Bon, ça me paraît complètement vain, puis ça cache le vrai problème.
Donc, on a besoin d'explications simples, et là, on en a trouvé, ou voire de coupables, ou de complices, et là, on en a trouvé une. Hein. C'est bien ça, Samuel Laurent.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est vrai que l'élection de Trump, quand vous regardez c'est vraiment là où on a eu ce tournant avec l'apparition de ce mot, d'ailleurs, fake news. Personne disait fake news il y a 3 ans. Moi, c'est un terme que j'aime pas du tout, parce que je le trouve d'ailleurs dangereux à ce niveau-là. Parce que ça donne une définition très étrange. Et d'ailleurs, vous voyez bien comment le politique s'en est tout de suite emparé pour aller immédiatement qualifier l'adversaire, l'opposition, celui qui est pas d'accord, de fake news. Donc, ça permet de disqualifier. C'est vous mentez, ce que vous dites est nul et non avenu. Et je pense que la vérité est quelque chose de compliqué et que c'est pas en décrétant ça c'est faux, ça c'est vrai, et certainement pas en le faisant décréter par l'État, qu'on va aboutir à quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, la manière dont on s'est tous jetés peut-être sur ce terme et sur ce que ça pouvait expliquer du monde.
Sommes-nous plus crédules aujourd'hui, Dominique Cardon? Parce que c'est aussi l'un des fonds de l'affaire. Attention, nous sommes de plus en plus susceptibles d'être troublés ou convaincus par la circulation de ces fausses nouvelles.
Alors,
crédule.
Moi, je pense. Alors, je ne crois pas. Je ne crois. Au fond, je ne crois pas. Mais c'est au cœur du phénomène actuel. Enfin, de l'interprétation que nous donnons au phénomène. Alors, ce qui est pas fascinant dans l'histoire d'Internet, c'est que finalement, on a pu dire avec les réseaux sociaux, le numérique, etc. On a pu dire que les internautes revendiquaient contre des gens qui leur désignaient l'information, les journalistes qui leur désignaient les programmes politiques, les partis politiques, etc., que finalement ils étaient suffisamment rationnels, raisonnables, souverains de leurs propres choix, et ils ont revendiqué pour eux-mêmes l'idée qu'il y avait une sorte nouvelle de rationalité des sociétés individualisées, capables de choisir l'information et de faire leurs propres choix. Et puis tout d'un coup, avec le débat sur les fake news, on tord complètement l'argument dans l'autre sens, et beaucoup de travaux de psychologie qui montrent les limites de notre rationalité, de notre entendement, nos limitations cognitives sont en train aussi de dire ça, que finalement nous serions un peu naïfs, qu'il y a une sorte de crédulité générale, que la moindre information ballottée par le vent serait susceptible de changer d'opinion, etc. Donc on a deux figures de l'individu contemporain qu'on superpose et qui ne se ressemblent pas dans ce débat. Ce qui est ennuyant dans le débat sur les fake news, c'est qu'une partie du débat aussi consiste à dire, et c'est très frappant, regardons autour de nous, moi ça va, non, moi je suis distancié, je suis critique, je fais très attention, je vérifie les sources, mais les autres. Alors, dans ce débat sur les fake news, c'est toujours les autres. Et quand on regarde un peu plus loin, les autres, c'est encore une fois les classes populaires, les milieux moins intégrés dans la société, ceux qui sont précisément, potentiellement, les électorats de ces populations. Donc on est non seulement en train de leur dire qu'ils sont un peu naïfs et crédules, mais en plus du coup d'inventer un dispositif qui contribue à refavoriser le sentiment qu'ils ont d'être exclus d'un espace central, de gens qui se pensent être l'espace de la raison, et face à un autre espace qui serait celui des croyances crédules des individus.
Alors on a vu apparaître dans le débat que les journalistes sont par construction vérificateurs d'informations, et donc il n'y a pas besoin que l'État vienne légiférer alors que c'est le cœur du métier. Mais le problème, on le voit, et quand on vous suit sur Twitter et qu'on vous voit batailler, Samuel Laurent, tous les jours, toute la journée, contre les rumeurs, les fausses informations, les manipulations, le problème c'est qu'un fait aujourd'hui, même établi, étayé ou démenti, ne ferme pas le débat. Le fait est perçu comme une opinion, comme une autre, non ?
Oui, il y a un peu de ça. Les réseaux sociaux favorisent un espace où, de toute façon, il y a un livre récent de Sébastien Dieguez qui s'appelle Total Bullshit, qui le dit assez bien. C'est pas tellement le vrai ou le faux, c'est l'indifférence à la vérité. C'est-à-dire que sur un réseau social, ce que vous voulez finalement, le critère de valorisation, c'est le partage. Donc si vous arrivez à faire 3000 partages avec une photo qui a 4 ans et en disant que c'est vous alors que c'est pas vous, par exemple, eh ben c'est pas grave, vous avez fait 4000 partages. Finalement, le fait que la photo soit vraie ou pas, c'est secondaire. Mmh. Et je pense que ce mécanisme-là, il joue effectivement. Et c'est vrai que c'est pas évident de définir ce que c'est qu'un fait, de définir ce que c'est qu'une vérité, surtout quand vous avez la possibilité d'avoir accès à une information qui va dans votre sens. Un phénomène récent qu'on a vu, c'est l'affaire Mamoudou Gassama et comment la théorie du complot a embrayé tout de suite. Et vous voyez très bien dans les mécanismes des gens, parce que je me suis intéressé assez de près, donc j'ai essayé de regarder qui partageait ça, qui doutait. Et ben vous avez des gens qui sont des gens entre guillemets pas des marginaux fou furieux, mmh, quoi, des gens qui sont des médecins, qui sont des mais qui vont se rentrer dans le crâne que c'est pas ce qui s'est produit, qu'il y a un doute, il y a quelque chose, et qui vont ensuite se renforcer les uns les autres avec des bouts d'informations jusqu'à fabriquer un truc qui est une réalité alternative, mmh, qui est au sens propre ce que Kellen Conway avait expliqué, les alternatives facts. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est vraiment ça. Il y a un côté dans une réalité alternative, c'est pas lui, c'est une manipulation d'État.
Et ouais, comment on fait, docteur Cardon?
Je crois que c'est
la crise de l'autorité, elle n'est pas nouvelle en démocratie, mais là, elle se voit. C'est-à-dire qu'il est même difficile d'être d'accord sur les faits.
C'est effectivement très compliqué. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Twitter est un petit espace social. Il est très important, parce que les journalistes et les hommes politiques y sont, mais c'est 8 à 10% de la population française. Et que ces guerres d'interprétation sur les événements, elles concernent des gens qui sont eux-mêmes très très convaincus et qui, de tout temps, et là, il n'y a pas de nouveauté très particulière, vont forcer le réel pour le rendre conforme à leurs propres présupposés idéologiques, leurs intérêts ou leur représentation du monde. Donc on a des conflits qui se constituent dans un espace qui reste un espace hyper idéologique, en fait. Et la réalité de la possibilité d'une influence des fake news sur les individus, c'est sur des gens qui sont beaucoup moins politisés, en fait.
Est-ce qu'il ne faut rien faire, du coup? Parce que vous critiquez la loi, vous dites qu'elle est potentiellement dangereuse, au mieux inutile. Est-ce qu'un État, parce qu'on voit les démocraties comme régime vaciller, être attaqué de l'intérieur, est-ce qu'un État peut rester les bras ballants ou dire bon, dans une génération, l'école aura fait son travail, Samuel Laurent?
C'est une bonne question. Je pense qu'on rate dans cette loi, elle rate une grosse partie de sa cible, qui est la question de l'économie de la fake news, entre guillemets, et qui nous renvoie à la question finalement de ce qu'on appelle les GAFA, donc des Facebook, Google, de ces plateformes sur lesquelles on va.
Expliquez-nous cet aspect, l'économie.
Alors c'est un peu vaste, mais grosso modo, dans nous, ce qu'on voit au quotidien, dans ce qu'on appelle des fake news, ce qu'on appelle des intox, il y a effectivement cette partie politisée, on va dire, d'intox d'extrême droite, d'extrême gauche, si vous voulez, mais c'est pas ça le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est des gens qui fabriquent des sites, ce qu'on appelle du clickbait, où on va mettre 150 articles par jour et on va prendre en fait n'importe quoi, c'est-à-dire je vais prendre un article sur ce fruit miracle qui guérit le cancer ou cette femme de 175 ans qu'on a retrouvée à Bornéo, je vous dis n'importe quoi, parce que ça va faire cliquer et c'est conçu pour aller sur les réseaux sociaux et pour encore une fois se conforter au mécanisme des réseaux sociaux qui favorise l'émotion, qui favorise l'insolite, qui favorise un certain nombre de choses. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui en font leur métier finalement, de produire ces informations massivement, de faire venir des gens via du clic. Et cette partie, entre guillemets, crapuleuse, je dirais, de la question, elle est peu abordée par la loi, voire pas du tout, alors qu'à mon avis, c'est un des moteurs de la chose.
Dominique Cardon.
Elle l'aborde sur un aspect qui est sans doute là une intervention assez judicieuse, qui est de demander aux plateformes de faire la transparence sur les financements d'informations, de publicité ou de la manière de pousser de l'information dans les réseaux sociaux, et de savoir qui a financé ces affaires. Et là, effectivement, on a besoin d'une transparence, parce qu'il y a un usage assez massif des techniques publicitaires sur ces plateformes pour arriver à pousser de l'information. Et par ailleurs, Samuel Laurent a vraiment raison de souligner qu'une grande partie, en fait, du nouveau continent, il y a un philosophe américain qui appelle ça les bullshit news, et c'est le meilleur terme qu'on puisse trouver. C'est-à-dire qu'il y a, et alors c'est beaucoup plus Facebook que Twitter, là, hein, mais il y a des pages Facebook qui, là, ont une véritable visibilité. C'est des pages qui ont des millions de fans.
Oui, donc il y a bien un sujet quand
et
même.
Et qui fabrique quelque chose. Oui, mais alors qui fabrique quelque
Dites
chose
Twitter, attention, c'est les marges de l'espace public numérique, c'est dans les caves d'Internet. Là, c'est massif et c'est au milieu du village. Hein.
Mais alors, il faut bien regarder ce qui est produit, parce que ce qui est produit est à la fois des choses drôlatiques, des choses extrêmement vulgaires, des choses extrêmement sexistes. Quand on regarde de près, ce sont des faits divers extrêmement trash. Et puis c'est beaucoup, parce que c'est là qu'il y a une zone, en tout cas, qui devrait nous concerner tous, qui est autour de la science et de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui font semblant de lire des articles scientifiques, puisqu'ils commencent tous leurs articles en disant « Nous avons lu dans le... » Et puis, c'est une grande revue scientifique. Et puis, ils lisent n'importe quoi et ils nous expliquent qu'il faut coucher sur le côté gauche pour ne pas avoir le cancer. Et on a toute une série d'informations qui se diffusent massivement sous cette forme-là.
8h36, intervenez au Standard d'Inter. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu.
Oui.
Vous écoute, Patrick.
Oui, je voulais savoir quel était la valeur de cette loi potentiellement liberticide, alors que des groupes et des États du type de l'Ukraine ces derniers temps à propos de la fausse mort d'un journaliste se pratiquent couramment.
Merci pour cette question, Samuel Laurent.
Oui, bah c'est
la plus belle. Elle a été produite effectivement par une puissance publique, par un État.
C'est amusant de rappeler ça, et c'est vrai que c'est toujours le problème quand on évoque ça ou les théories du complot, c'est qu'il ne faut pas nier non plus que les États ne sont pas forcément des parangons de la transparence totale, avec une honnêteté absolue dans la manière dont ils restituent les informations. L'Ukraine en est un bon exemple. Il y a toujours eu effectivement ce type de choses. Ça existe, des manipulations médiatiques plus ou moins grosses, avec plus ou moins une influence de l'État. C'est vrai. Maintenant, je pense qu'on est sur deux domaines qui sont peut-être un petit peu différent. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la capacité de la population à s'informer de toute façon indépendamment de l'État, de plus en plus. C'est aussi un des enjeux au cœur de cette loi, c'est la question de, aujourd'hui, avec Internet, on peut soi-même être un média et on peut s'informer comme on veut, littéralement. C'est très difficile aujourd'hui de vous empêcher d'aller lire un peu tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'effectivement, ça renvoie aussi à cette question-là et à cette ubérisation de ça, mais c'est vrai que l'État, ceci dit, peut également utiliser l'information à son profit.
Lorraine, sur l'application France Inter, demande est-ce qu'à contrario, cette loi ne conduirait pas à dire que toute nouvelle qui ne fait pas l'objet d'une sanction est considérée comme vraie ? C'est-à-dire, si le juge ne l'interdit pas, du coup, ça veut dire que c'est vrai, Dominique Cardon.
Oui, alors on pourrait effectivement tourner l'argument et du coup valider comme ça toutes les informations. Il faut vraiment revenir sur ce que c'est que l'information et cette question de la vérité. C'est-à-dire que en réalité, les débats de l'espace public, les débats politiques ont toujours été des stratégies d'influence, de manipulation, de désinformation. On fabrique, et surtout la parole politique est un projet vers le futur, elle fait un constat sur le présent, puis elle projette vers le futur, et elle raconte souvent des choses courbes, des choses incertaines, ou des choses en tout cas qui ne sont pas vérifiables ou validables de façon exacte et empirique. Et donc, un des grands débats, et là je pense qu'une des manières de traiter la question vient beaucoup plus des solidarités professionnelles du milieu sur la qualité des sources et des informations. Alors évidemment dans l'Ukraine, la question de l'exactitude dépend la plupart du temps de la qualité des sources auxquelles on s'est référé pour dire qu'un événement s'est passé. Si la source devient des États, des sources institutionnelles, et qu'elles produisent des manipulations et des mensonges, on entre dans un monde qui devient très problématique.
Cécile, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Voilà, j'ai une question à poser. Donc, ce serait en termes de solution. Est-ce que pour vos intervenants, est-ce qu'une solution, ce serait pas dans l'éducation, c'est-à-dire au niveau de l'école, d'apprendre aux élèves à analyser l'information? C'est-à-dire avoir des connaissances, mais la notion d'analyse. Je vous donne juste un petit exemple. J'ai une élève de première S qui m'a dit en début d'année, vous êtes la première personne qui m'apprend à analyser. Et c'était beaucoup plus facile pour comprendre. Voilà.
Merci pour cette question, Samuel Laurent.
Oui, c'est évidemment que l'éducation aux médias, de manière générale, est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, d'autant plus dans un monde effectivement où l'information devient plus compliquée finalement et demande plus de grammaire et de connaître plus de choses. C'est vrai que ça se renforce, ceci dit, depuis des années, qu'on fait de plus en plus d'éducation aux médias. Nous, on a mis en place des programmes où on va intervenir dans des collèges, dans des lycées. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir ces confrontations quand vous êtes journaliste avec des jeunes et de voir la manière dont ils s'informent, qui n'est pas forcément celle qu'on imaginerait dans des clichés, qui est des fois beaucoup plus classique que ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'ils regardent aussi les informations à la télé, hein. C'est pas uniquement sur Twitter et sur Facebook. Mais je pense qu'après, c'est vrai, et c'est vrai qu'il faut apprendre à raisonner, mais le phénomène actuel, il dépasse la question des enfants et des adolescents. C'est tout le monde. Nous, dans les profils très militants qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est beaucoup des personnes âgées. Pour le dire autrement, c'est beaucoup des gens qui ont le temps, parce qu'ils sont à la retraite, de s'investir là-dedans. Et ces gens-là ont exactement le même type de problème de, quelque part, de grammaire des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une autre question. Vous avez une forme d'imitation du journalisme dans tous ces sites, tous ces blogs qui vont aller diffuser des choses plus ou moins intenses, les mots, les formats. Ça ressemble et quelque part, ça joue, ça trompe aussi le public à ce niveau-là. Parce que je pense que pour plein de gens, dès lors que ça ressemble à un article, c'est un article, donc ça a été fait comme un article journalistique, quoi.
Est-ce qu'on est au tout début du phénomène, d'après vous, Dominique Cardon? Puisqu'on sait, on le voit, il y a mille faits qui l'attestent, qu'il y a bien un agenda anti-système. Là encore, je fais pas de complotisme, un agenda anti-système dont l'une des armes est précisément la désinformation. Donc peut-être que là, c'est juste le tout début de quelque chose qui va maintenant se rationaliser et se professionnaliser encore plus.
Alors, à l'évidence, on a devant nous une continuation du phénomène et sans doute une augmentation. Et peut-être, et alors, ce qui serait problématique, une professionnalisation, parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, l'industrie productrice de fake news dans les CAF fait des produits très avariés et assez facilement identifiables quand même. Et notamment sur l'image, sur la transformation et le trucage de l'image avec les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, on peut faire des choses qui tromperaient beaucoup de gens. Mais la question centrale, c'est finalement cette réflexivité de nos sociétés et cette capacité. Et ça vient toujours avec le numérique. Moi, je ne cesse de le constater. C'est-à-dire qu'on apprend, il y a des nouveaux défis et puis progressivement, on apprend. Donc la question éducative est évidemment absolument au centre. Et une des choses qu'il faut vraiment apprendre, c'est non seulement l'identification, mais c'est de faire attention avec le numérique, qui est un point un peu obsessionnel pour moi, de se dire, c'est pas parce que c'est publié que c'est vu. Hein. Et donc il va falloir aussi apprendre à être attentif à la visibilité des informations. Et beaucoup de ces informations, quand même, circulent à des endroits où elles ne méritent même pas attention. Et que quand en revanche, des gens qui sont très visibles prêtent attention à ces phénomènes et les remontent, ça crée des effets où tout d'un coup, on est en train de parler d'un sujet qui, en fait, a été lancé depuis un espace absolument obscur de conversation sur le web.
Merci à tous les deux, Dominique Cardon, Samuel Laurent. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler puisque cette proposition de loi revient à l'Assemblée au mois de juillet. Merci en tout cas pour ce bilan d'étape, ce point d'étape.